hommage à Lucky Luke.
Enfin, nous avons pénétré dans la banque. Avril, passe-moi la dynamite.
Voilà, Joe.
Voilà, maintenant, passe-moi la bobine de fil.
Tiens.
Très bien, passe-moi les allumettes et on peut les radios au coffre.
pas de chance, Joe. J'ai utilisé la dernière pour le gâteau d'anniversaire de William.
Avril, pauvre imbécile.
Ah. Ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah.
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, auditeurs et auditrices de CKIA. Bon retour à la maison, tout juste après 17h en ce lundi 16 février 2009. Vincent Langlois au micro. Je vous souhaite la bienvenue à votre magazine hebdomadaire sur le monde ludique. Puissance maximale. Et comme à l'habitude, je suis en compagnie de nos collaborateurs habituels. François Gécouillard.
Salut Vincent.
Salut François.
Lara Croft, héroïque.
Et Lara Croft est avec nous. Nous sommes très heureux d'avoir Lara Croft. Et,
salut Lara.
On aura bien sûr la chance de la rencontrer dans quelques instants. Christian Lacroix est avec nous aussi.
Oui, bonjour.
Salut Christian. Alors, juste avant de débuter l'émission, messieurs, nous allons faire un petit tour de table sur ce qu'il va y avoir aujourd'hui à l'émission. De ton côté, Christian.
Oui, ben, je vous parle d'une nouvelle chronique, les objets ludiques non identifiés, les OLNI.
D'accord. François, il y a une petite rectification par rapport à l'émission de la semaine passée.
Oui, c'est au sujet de la chronique économie de David Claveau. Donc, il disait qu'il y avait eu 16 000 emplois qui avaient été supprimés de Sony, donc une petite rectification. C'est plutôt 8 000 emplois sur 160 000, donc 5 % des effectifs de Sony qui ont été supprimés.
D'accord.
Et sinon, donc... on va avoir une entrevue avec, évidemment, Nathalie, des compagnons de la Nouvelle-France.
Dans quelques instants. Et nous aurons également la chance d'aller rejoindre Fraulein Evil à Montréal, qui va nous parler d'un petit peu d'actualité et sur les jeux de table, les jeux de plateau, en fin de compte. C'est Fraulein Evil, Chantal Campagna, du Valet de cœur à Montréal. Alors, juste avant ça, on va passer en musique et on revient avec l'entrevue avec Madame Gauthier.
Lara Croft, héroïne du jeu Tomb Raider, est devenu en très peu de temps l'un des personnages de jeux vidéo les plus célèbres et les plus populaires. Vêtue d'un petit short et d'un haut moulant, elle devra affronter bon nombre d'ennemis afin de retrouver les fragments d'une ancienne relique appelée Sion. We'll be right back.
Toujours sur les ondes de CKIA, vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale. Et nous recevons aujourd'hui Mme Nathalie-Marie Gauthier des Compagnons de la Nouvelle-France. Bonne fin d'après-midi.
Merci, bien, merci de m'accueillir.
Bien, ça nous fait extrêmement plaisir. Tout d'abord, pour nos auditeurs, les Compagnons de la Nouvelle-France, c'est un groupe de reconstitution historique de Québec. Et leur but est de recréer la vie militaire et civile à l'époque du 18e siècle dans le plus grand respect de l'histoire. Nous, ici à Puissance Maximale, on parle du monde ludique, on parle du monde du jeu. On avait quelques petites conversations avant de débuter l'émission. Alors, est-ce que la reconstitution, ce que vous faites, est-ce que c'est vraiment un jeu?
En fait, ça peut pas être, c'est pas vraiment considéré comme un jeu de rôle, comme on le ferait avec un jeu de Donjons et Dragons, ou comme on le ferait dans un Grandeur Nature, où est-ce qu'on prend un rôle qui est complètement de l'ordre du fantastique et qu'on essaie d'interpréter. Nous, ce qu'on fait en reconstitution historique, c'est beaucoup plus de l'interprétation et c'est de recréer le plus fidèlement la vie de nos ancêtres à la toute fin du régime français.
Et pour dire les choses franchement, vous avez du fun quand même, là. C'est à loisir.
Ben oui. Je te dirais que quand la saison se termine à l'automne, on a certains vêtements qu'on peut pas nécessairement mettre dans la laveuse parce qu'on les abîmerait. Alors, ils sentent encore le feu, la fumée des feux. Alors, quand on a une petite crise de nostalgie, comme au mois de février, là, on ouvre le garde-robe de vêtements, de reconstitution, puis on prend une petite bouffée d'odeur de feu, puis on se dit, ah, la saison s'en vient.
Donc, on parle vraiment d'une reconstitution qui se passe de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne?
Habituellement, oui. Il y a certaines activités d'hiver pour les plus courageux qui n'ont pas peur d'affronter les froids ou qui sont bien équipés. Mais oui, habituellement, là, c'est de fin avril, début mai, jusqu'à octobre, là, jusqu'à l'action de grâce.
Et c'est le fun, Nathalie, quand tu parles là, de rouvrir son garde-robe et de sentir l'odeur là, d'automne, l'odeur des feuilles et tout ça. Encore une fois, il y a une familiarité avec les joueurs de grandeur nature. Là, toujours la nostalgie, l'espèce de regain là, au printemps qui revient quand on ouvre son coffre à costume. Donc, dis-moi, là, au sujet de la reconstitution en tant que telle, là, c'est qui le premier qui a eu l'idée de partir ça? Là?
En fait, la reconstitution historique, on n'a pas inventé la roue à Québec. Hein? En Europe, ils recréent souvent des trucs médiévaux. En Amérique du Nord, c'est plus récent. Les reconstituteurs ont décidé à un moment donné de recréer la Grande Guerre de Sécession.
Donc aux États-Unis.
Ça a commencé comme ça. Ensuite, ils se sont intéressés au régime français. Il y a beaucoup, beaucoup de reconstitutions de batailles du régime français qui se font aux États-Unis. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de forts français qui étaient installés dans l'État de New York sur les pourtours du lac Champlain et du lac George. Donc, de ce côté-là, on est souvent appelé à se rendre aux États-Unis pour faire des reconstitutions là-bas. Au Québec, le loisir est quand même assez récent. Je te dirais que ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il y a des reconstituteurs qui ont le goût de faire partager leur loisir.
Mais là, tu as dit quelque chose qui me surprend, Nathalie, c'est que ça a commencé en Europe en premier?
Oui. Aussi. Oui, ben les grandes batailles médiévales ont eu lieu en Europe, bien entendu.
OK. Alors, donc, les premières reconstitutions historiques, c'était des combats médiévaux.
Oui, voilà.
OK. Ah, c'est intéressant. Et sinon, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de l'authenticité des batailles en tant que telles?
Pour l'authenticité des batailles, c'est pas compliqué. C'était des batailles en rangée. Donc, c'est un peu comme votre intro avec le bang-bang Lucky Luke. Là. Écoute, je te tire, t'es mort. C'est pas plus compliqué que ça. Il y avait quand même une certaine discipline à l'intérieur de tout ça. Il y avait de la stratégie aussi, que je connais pas beaucoup parce que moi, je joue un rôle civil. Donc, je te dirais que la stratégie militaire, je laisse ça à ces messieurs de mon groupe.
OK, OK. Donc, t'es pas ferré en domaine militaire, là, mec. Quand même, tu t'es au courant quand même qu'il doit y avoir des historiens qui doivent s'assurer que...
Il doit y avoir une certaine recherche de fait par les personnes qui participent.
Oui, absolument. Et on est chanceux au Québec parce qu'on est très, très, très documenté. Il y a beaucoup d'historiens québécois qui nous ont vraiment là mis l'information sur des plateaux d'argent et il ne reste qu'à chercher. Donc, nos recherches sont vraiment assez poussées, surtout au niveau des costumes qu'on porte en temps normal, parce que les costumes, il n'y a aucune fibre synthétique qui est acceptée. Donc,
C'est-à-dire qu'il y a des arbitres qui vont vérifier?
Non, pas du tout. C'est qu'à l'intérieur de chaque groupe, il a habituellement ce qu'on appelle un comité historique. Donc, le comité historique va guider le nouvel arrivant pour l'achat de ces tissus et la fabrication aussi des
habits. Là, c'est sérieux. Mais c'est une sorte de censeur. Là. Il va vérifier que tout est en ordre, que tout correspond à l'authenticité historique. Dans
oui,
le fond.
Définitivement. Définitivement. Et on a tous les patrons aussi qu'il faut pour que les gens puissent confectionner leurs vêtements selon les règles de l'art.
Et que risquent les personnes qui n'ont pas suivi les règles tout simplement de ne pas être acceptées à la reconstitution?
Ben, pas nécessairement. Ils sont tellement bien drillés au début qu'ils risquent pas de contredire les règles.
Là, on parle de vêtements, mais est-ce que c'est la même chose avec la nourriture, par exemple? Oui. Est-ce qu'on essaie de respecter les mêmes épices qu'à l'époque, tout ça?
Oui, ou? Absolument. Tout ce qui est nourriture, tout ce qui est vie civile aussi, c'est fait dans le but d'éviter le maximum d'anachronisme. Ce qu'on essaie d'éviter par-dessus tout, c'est de se retrouver avec un plat de plastique qui traîne sur une table. Nos meubles aussi sont à caractère historique. Les tentes sont des modèles qui étaient utilisés à l'époque aussi.
Puis vous bénissez les montres aussi, les espadrilles?
Ah, absolument, absolument. Montres, bijoux, lunettes aussi, lunettes modernes. Alors, quelques-uns d'entre nous dans le groupe ont dû se trouver des montures beaucoup plus historiques.
Ben, qu'est-ce que tu fais justement, Nathalie? Toi-même, tu as des lunettes. Là? Qu'est-ce qu'on fait?
Je change de lunettes. Quand je suis sur les sites historiques, alors j'ai pas mes
des lunettes spéciales.
Ben, c'est des lunettes qu'on achète chez des fournisseurs d'équipements historiques.
Wow! C'est extraordinaire! Ça doit coûter une fortune, tout ça.
Ça coûte aussi cher que s'équiper pour jouer au golf quand tu prends ton kit de départ puis ton membership. Ça coûte aussi cher que jouer au golf.
C'est vraiment la chose, c'est vraiment le hobby, disons, d'une personne, comme si c'était celui du golf, comme si c'était celui de jouer au tennis durant l'été.
Absolument.
Vous passez, en fin de compte, le temps de vos vacances à faire des reconstitutions.
Est-ce que l'an dernier, pendant les vacances, on a visité la forteresse de Louisbourg. Donc, on a passé presque une semaine à Louisbourg à reconstituer le 250e anniversaire de la bataille de Louisbourg.
OK. Moi, ce qui m'intéresse là, de savoir, c'est comment vous faites pour respecter sur un champ de bataille là, les proportions. Là. Par exemple, on prend au hasard là, les batailles d'Abraham, par exemple. Il y avait un certain nombre d'Amérindiens, il y avait un certain nombre d'Anglais, de Français, tout ça. Admettons que vous avez trois groupes qui ont majoritairement des costumes français. Qu'est-ce que vous faites, là, par exemple, pour trouver des Amérindiens? Est-ce que vous faites attention à ça?
En reconstitution historique, il y a des groupes aussi qui reconstituent les Amérindiens de l'époque, donc les Montagnais, les Iroquois et d'autres nations aussi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se fie aux écrits historiques. On n'a pas le choix de se baser là-dessus. Et tu te fais pas un costume militaire pour dire que t'as l'air de n'importe quoi. Il y a des régiments qui ont participé à ces batailles-là. Et nous, les compagnons de la Nouvelle-France, le régiment militaire qui est représenté, c'est le régiment de Béarn.
Mais vous ne pouvez pas avoir les costumes de tous les combattants de l'époque, là. Je veux dire, ça veut dire que vous devez avoir une grande garde-robe de plein de costumes variés.
Non, pas nécessairement. Les hommes de notre groupe qui représentent le régiment de Béarn ne portent que le costume du régiment de Béarn. On reproduit pas plusieurs régiments, justement par souci d'unicité à l'intérieur du groupe.
Mais, par exemple, quand vous allez reconstituer aux États-Unis des batailles, mettons, de la guerre de sécession, le régiment de Béarn n'y a jamais pris
part. Non, nous, on ne fait pas de guerre de sécession. On ne fait que fin régime français, donc de 1750 à 1759.
Quand vous arrivez, là, toi, tu es une civile, bon, peut-être que tu ne participes pas aux batailles, là, mais quand les combattants arrivent là, face à face, là, il y a une rangée de à cette époque-là, au 18e siècle, les batailles, ça se déroulait en rangée. Donc, il y a une rangée qui arrive devant une autre rangée, puis là, chacun fait feu. Qui tombe en premier? Comment vous déterminez ça? C'est-tu à la courte paire, quelque chose comme ça? Parce qu'on s'entend, là, une fois que t'es tombé à terre, c'est game over, là, le fun est fini.
Il y a souvent une partie scénario avant les batailles et on va s'entendre sur qui tire le premier. Bon, si on est face à face que tu tires le premier, c'est sûr que je vais tomber. Mais question de scénario, puis à un moment donné, je pense qu'on y va au feeling.
Ah oui, vous y allez
carrément au feeling.
Il y a
vraiment une question là, de... Puis les gars sont passionnés, alors ils se connaissent aussi, les gens se connaissent.
C'est ça, puis aussi les journaux de bataille, des fois, sont très détaillés. Hein.
Absolument.
Il y avait des gens là dans ces guerres-là qui prenaient des notes sur
absolument.
Quel régiment tirait en premier, puis et c'était planifié, donc on a beaucoup de détails.
Oui, c'est ça.
En fin de compte, le meilleur truc, c'est de se cacher à côté d'un de ses amis pour ne pas recevoir le premier tir, après ça, tirer. Donc,
mais
c'est vraiment ça qui se passe.
Donc, si tu as à mourir, tu vas mourir.
Oui, mais il y avait quand même sûrement des gens qui se cachaient à ce moment-là. Alors, on va prendre une petite pause. On va continuer l'entrevue dans quelques minutes et on y va en pause musicale.
Donc, on est avec Nathalie et Marie Gauthier, des compagnons de la Nouvelle-France, et c'est le choix musical de Guillaume Forand,
qui est à la console aujourd'hui.
Et vous écoutez Puissance Maximale.
«
Toujours sur les ondes de CKIA, vous écoutez Puissance Maximale. Nous sommes en compagnie de Nathalie Marie Gauthier, des Compagnons de la Nouvelle-France. Nous allons continuer l'entrevue. Parlons justement des Compagnons de la Nouvelle-France. Qui sont-ils, en fin de compte?
Les Compagnons de la Nouvelle-France font partie des quelques groupes de reconstituteurs historiques au Québec, fondés début des années 2000. On est à peu près 30 membres présentement, donc des militaires, des miliciens, des civils et des enfants aussi.
Il n'y a pas d'Amérindien?
Oui, on en a un, notre petit sauvage.
Ah, c'est un petit, là?
Non, c'est ça, on l'appelle que... notre petit sauvage, c'est parce que c'est un des plus jeunes adultes du groupe, alors c'est notre sauvage.
Donc, vous avez nommé une multitude de personnes, on parle des adultes jusqu'aux enfants,
oui.
En passant par... Ben, en fin de compte, c'est une activité qui est extrêmement familiale, d'après
oui,
ce que je comprends.
Oui, absolument, et c'est la beauté de cette chose-là. Je te dirais qu'au début, on a certaines réticences à dire « ouais, il me semble, avec les enfants ». Parce que les enfants, bon, ils sont habitués. Moi, mon fils a toute la panoplie des jeux vidéo à la maison. Puis, aussi drôle que ça puisse paraître, les fins de semaine qu'on est en reconstitution, ça s'amuse avec une petite charrette en bois puis une balle de foin, puis ils ont énormément de plaisir à nous suivre.
Bon, ben, c'est un beau message pour les parents qui écoutent puis qui ont des préjugés contre les jeux vidéo. Hein. C'est quoi le prénom de ton garçon?
Mon fils s'appelle Arnaud.
Donc, on salue Arnaud. Qui doit sûrement écouter, il doit sûrement triper.
Oui, puis il doit se demander pourquoi maman répond pas quand il parle. Dans la radio.
Et dis-moi, tu as parlé justement que les Compagnons de la Nouvelle-France, vous êtes un des groupes de reconstitution. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs à Québec, là, des groupes comme ça?
Il y en a quelques-uns un peu partout dans la province. Dans la région de Québec, on a deux groupes. Il y a nous et un autre groupe. Il y en a dans la région de Montréal aussi.
C'est les compagnies des canonniers bombardiers aussi à Québec.
La compagnie des canonniers. Ouais. En fait, on est trois à Québec. Là. On est quatre à Québec. La garnison de Québec, la compagnie des canonniers bombardiers, nous-mêmes et les miliciens réguliers du Marquis de Montcalm.
Et est-ce que, avec tous ces groupes-là, tous ces groupes-là se rencontrent lors d'un événement ou
pas nécessairement, parce que chaque groupe a un peu sa vocation. Donc, on cherche nos propres contrats, on a nos propres partenaires, si tu veux, qui nous sont auxquels on s'accroche un peu plus.
Puis j'imagine aussi historiquement, ils font pas partie de la même période.
Oui, on
aussi?
Fait à peu près tous du fin régime français.
D'accord.
Sauf que chacun a un peu son petit dada. Là. Donc, la compagnie des canonniers bombardiers, déjà par l'uniforme, ils sont très différents de nous. Le régiment de la Sarre à Montréal, les costumes vont se ressembler un peu, mais ce sont des régiments qui sont tout à fait différents.
OK. En dehors des batailles, qu'est-ce que vous faites exactement? Là? Tu as parlé, tu es un civil toi-même, donc qu'est-ce que tu fais en tant que civil?
Ben, sur les sites, moi je fais beaucoup d'animation, je fais beaucoup d'interaction avec le public.
Alors, d'ailleurs, justement, c'est quoi ton nom de personnage? Peux-tu nous parler, te présenter toi-même?
Qui est-elle?
Oui, alors mon personnage est Marie-Marguerite Renée Robineau de Bécancour, qui était demi-seigneuresse de la baronnie de Portneuf en 1742. Moi, ce que je fais plus souvent sur les sites, c'est que je vais aller aborder les gens et je vais leur dégouaiser quelque chose en vieux français. Ça peut paraître très drôle, mais les gens adorent se faire parler dans ce langage-là. Et le vieux français, c'est un peu ce qui se parle encore au Nouveau-Brunswick et en Acadie.
OK. Mais justement, c'est... Tout à l'heure, tu parlais de contrats, vous prenez des contrats de temps en temps, mais ça, c'est bénévole, tout ce que vous faites, là?
Pas nécessairement. Dans le courant de l'année, on peut avoir des contrats qui sont payants aussi, mais je te dirais que la majeure partie des contrats payants servent à payer nous autres, notre matériel roulant, nos assurances, très peu de choses, en fait, là, parce que le meublant, bon, on s'occupe de ça nous-mêmes, là.
Mais c'est qui exactement qui vous paie? Est-ce que vous pouvez faire du corporatif ou des trucs comme
oui,
ça?
Oui, on peut faire du corporatif, okay. On peut faire des aides d'honneur, on peut faire à peu près n'importe quoi, là.
OK.
J'imagine que c'est un organisme à but non lucratif?
Oui, c'est ça, on a une charte d'OSBL.
Okay. D'accord, et on peut noter, en fin de compte, combien de reconstitutions dans la période dont on a parlé tout à l'heure?
Cet été, on a un bon calendrier bien chargé. Cet été, on devrait faire une douzaine d'apparitions. Là. Puis ça, c'est des apparitions devant public. Il y a des événements privés aussi. Et il y a aussi ce qu'on appelle des grands campements, comme au Fort Niagara cet été.
On a passé vite sur ce sujet, je pense que ce serait intéressant d'y revenir. C'est, vous avez parlé du vocabulaire français, là, du vieux vocabulaire français. Il y a peut-être des termes là, que vous pourriez de dire aux gens là, qui étaient utilisés à l'époque, des termes particuliers qu'on a perdus. Est-ce qu'on disait la plotte à terre, par exemple?
Quelle belle expression!
Non, ça, on n'utilisait pas, mais je te dirais qu'il y a une expression, il y a plein d'expressions qu'on utilise couramment, qui nous viennent de la Nouvelle-France, okay. Comme lorsque tu as une situation avec quelqu'un puis que tu finis par lui dire « Ah ben ça, c'est une autre paire de manches ». Ça vient du fait que lorsque les femmes travaillaient au champ, elles ne portaient pas les manches de leur mantelet. Donc, si la femme devait sortir du champ pour se rendre au village ou s'il y avait un visiteur qui arrivait, il fallait en vitesse qu'elle remette les manches de son mantelet et il arrivait que les manches n'aient pas le même motif que celles du mantelet. De là l'expression « c'est une autre paire de manches ». Il y a plein d'expressions qui nous viennent comme ça de la Nouvelle-France.
Et là, on s'entend que vous, tout le groupe là, des compagnons de la Nouvelle-France, vous parlez tous à peu près le même type de français ou vous...
En fait, il y a les, on est trois à parler ce fou langage, mais trois personnes qui font beaucoup plus d'interactions avec le public. Nos militaires se concentrent vraiment
cachés.
Sur... Non, ils sont
sur
pas cachés, mais ils se concentrent sur l'exercice militaire. Il y a certaines de nos civils qui font des travaux d'aiguille, qui interagissent moins avec le public, mais comme moi, je suis toujours d'humeur très volubile, je me permets d'interagir beaucoup avec le public.
Est-ce que vous avez comme des forgerons, des artisans?
Ben en fait avec nous on a un arpenteur qui a monté tout un atelier sur l'arpentage de la façon que ça se faisait à l'époque. À travers nos militaires aussi, on a un de nos militaires qui fait du coulage de balles sur le feu comme ça se faisait à l'époque avec la petite pince pour les boules. Donc il y a plein de trucs. Juste de faire la nourriture, c'est un atelier en soi sur la façon dont on vivait à cette époque-là. Mmh.
Quand même, ça doit être tout un exploit de faire ça.
Moi, j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui pousse une personne à faire de la reconstitution? Est-ce que c'est tout simplement d'être attiré par l'histoire? Parce que j'imagine que c'est pas juste des historiens qui participent, c'est des gens qui ont plusieurs professions dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est vraiment attirée par ça?
Ben un peu dans la lignée des grandeurs nature, il y a l'attrait du costume, hein, puis il y a l'attrait de jouer quelqu'un qui est pas du tout toi. Donc ça attire un peu, mais je te dirais que d'un certain côté, je pense que les gens qui sont attirés vers la reconstitution historique sont des gens qui sont un peu plus attachés à l'histoire de la Nouvelle-France, bien entendu. Puis il faut être passionné pour faire autant de recherches, pour aller toffer un personnage, puis d'essayer de vivre ce personnage-là du mieux que tu peux, parce qu'on n'est pas des figurants, on n'est pas des comédiens, on est vraiment les artisans de nos propres vies.
Là. Excellent. En fin de compte, puis ce sont tous des personnages qui ont existé. Là. La dame de Bécancourt que tu perds.
Oui, Marie-Marguerite a existé.
C'est vraiment une personne qui existait.
Il y a plusieurs personnages dans notre groupe qui ont existé. D'autres non, sauf qu'on va souvent dans les dictionnaires biographiques pour chercher des noms qui vont être appropriés. Tout simplement pour avoir un nom d'époque, en fait. Là.
D'accord. Écoute, Nathalie, donc peut-être une dernière question, étant donné que on se dirige vers la fin. Mm-hmm. Donc, à moins que les gens se soient exilés sur la Lune, ils ne doivent pas savoir qu'il y a eu une controverse ces derniers jours sur la reconstitution des batailles d'Abraham, la bataille
de quoi
d'Abraham.
Hein, c'est quoi ça?
Donc, ça brasse beaucoup dans les chaumières, dans certaines chaumières, du moins. Donc, la question qui tue, Nathalie, si ça n'en tenait qu'à toi, est-ce que la reconstitution des batailles des plaines d'Abraham aurait lieu?
Bien, si en tenait qu'à moi, c'est sûr et certain qu'elle aurait lieu, parce que le but dans tout ça, c'est d'en faire un événement à caractère pédagogique pour montrer aux gens comment ça s'est passé. Le fait que la Nouvelle-France est perdue, ça ne s'est pas joué sur les plaines en 1759, mais bien à Versailles en 1763. Donc, la commémoration de la chute du Québec, ben les extrémistes vous reviendront en 2013, parce qu'on n'est pas rendu là.
C'est
le traité de Paris.
Il y a peu de gens qui savent
abandonné
que ça
la
faisait
France.
Partie de la guerre des Sept Ans.
Et voilà.
Que Winston Churchill avait dit que c'était la Première Guerre mondiale. T'sais, c'est beaucoup plus
c'est
grand
beaucoup plus
et large
grand
qu'on
ça.
Pense.
T'sais. Exactement. Mais s'il n'en tenait qu'à moi, je me dis pourquoi on ne pourrait pas reconstituer ce qu'on a fait à trois reprises dans les 15 dernières années. Et est-ce que c'est parce qu'on pile sur l'année du 250e qu'il y a autant de protestations?
C'est ça, parce qu'il faut mentionner, ça a déjà été fait trois fois. C'est ça.
Ça a été fait trois fois. Moi, je me dis que, bon, en année d'après 400e, c'est un bel apport pour la ville de Québec, parce que bon an, mal an, à chaque fois, on attire à peu près 90 000 visiteurs. Mais, bon, les instances en ont décidé autrement et tout un chacun a essayé de tirer un petit peu son capital politique là-dessus. Alors, qui vivra, verra.
Ouais, pour conclure le sujet, j'aurais juste ajouté que j'ai écouté beaucoup là, les interventions là, à ce sujet-là, à préparation de l'entrevue. Et je pense que si l'événement se déroulerait dans le respect de l'histoire, dans un souci pédagogique, je pense que tout le monde serait d'accord,
Oui, puis en fait, nous, reconstituteurs historiques, n'avons jamais, au grand jamais, prononcé le mot « célébration ». On parle bien d'une commémoration.
C'est ce qui m'a fait l'entrevue. Merci beaucoup d'être passé parmi nous.
Ben merci.
Sens maximal.
Merci. J'espère qu'on aura donné l'engouement aux gens de revivre l'histoire de cette belle Nouvelle-France.
Excellent. Et on va passer à un petit concours aujourd'hui. On fait tirer un jeu. Alors, vous avez un Nintendo DS. On a le fameux jeu Mon Coach Personnel. Et oui, la petite musique du concours habituel. Donc, Mon Coach Personnel, j'aime bien mon anglais, d'Ubisoft Québec. C'est un jeu que j'avais testé il y a tout près d'un an. Et ben, vous avez la chance de le gagner en appelant au 88-529-9026, 88-529-9026.
Et on va passer. C'est gratuit, il suffit d'avoir un Nintendo DS.
Ça prend un Nintendo DS, bien sûr, et on ira voir si vous l'avez. Nous allons passer en musique avec Ghostbuster. Sur les ondes de Sequoia, vous écoutez Puissance Maximale. Strange in the neighborhood.
Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximal.
Alors, sur les ondes de Sequoia, yeah, ich spreche Deutsch. Et nous allons saluer Lauréane qui a remporté le jeu Mon Coach Personnel. Alors, Lauréane, tu auras à venir chercher ça à Sequoia. Nous allons passer à la chronique, la nouvelle chronique de Christian Lacroix. C'est Christian Lacroix qui possède tout. Et Christian, tu nous fais une nouvelle chronique aujourd'hui.
Oui, donc je possède la puissance maximale et donc la nouvelle chronique. Oui, j'ai pensé à ça, tout simplement d'appeler une chronique les OLNI. Donc, c'est quoi un OLNI?
Aucun jeu de mots avec OVNI?
Ben non, ben oui, justement, t'as compris, hein, c'est pas compliqué. Donc, c'est
non,
des
mais
objets.
C'est normal, moi, je comprends, ça soit pas compliqué pour que je comprenne. Voilà.
Donc, c'est des objets ludiques non identifiés.
Objets ludiques non identifiés.
Ben oui, c'est ça.
Alors,
ben,
t'as trouvé plein d'objets que tu vas nous montrer ici, on va pouvoir jouer, mais on ne sait pas à quoi ça sert.
Ouais, en fait, c'est des nouveautés. Là, j'ai deux nouveautés à vous présenter. Un jeu de plateau et un jeu aussi donc sur le PS3.
Oh yeah.
Qui vient du PlayStation Network. Je pourrais peut-être commencer par ça. C'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui, même si c'est un petit jeu, là, étant donné que c'est distribué par le PlayStation Network, là. C'est Flower, est-ce que tu...
Malheureusement, ça fait vraiment longtemps que je suis pas allé sur le PlayStation Network. Ah, oui. Quand je vais là, ma carte de crédit y passe. Alors, j'ai décidé d'arrêter un peu. Non, mais il y a tellement de bons petits jeux, vraiment le fun, oui. Là, comme The Last Guy, puis des choses comme ça. Tu dis, voilà. Regarde, c'est assez incroyable. Tu dis Flower. Toi, c'est un jeu que tu as essayé?
Non, je n'ai pas essayé encore, malheureusement, mais j'ai vu beaucoup de choses sur Internet. Il y a un gros buzz autour de ce jeu-là. Et donc, ça, je pense que ça vient tout juste de sortir, c'est en train de sortir. Et c'est un... Je le mets là-dedans parce que c'est pas vraiment... Il y en a qui disent « Oh, c'est pas un jeu ». Il y a un gros débat sur Internet, c'est même pas un jeu. Parce que, bon, il faut comprendre que c'est très zen. Ça vise à relaxer les gens. Alors, c'est pour vous dire un peu, là, qu'est-ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend la manette, on utilise le 6-axis, le système donc de calibrage, hein, donc on a qu'à pencher la manette et puis ça va à gauche, à droite, bon, on peut plonger et on contrôle finalement un pétale de fleurs, c'est beau, hein. Et là, on se promène.
Qui tombe dans les airs.
Oui, on est comme le vent. Alors, on souffle le pétale et il n'y a presque pas d'interface, hein. Donc, les décors sont superbes et là, on se promène dans 6 niveaux comme ça avec le petit pétale. Et à mesure qu'on se promène, c'est comme si on enrichissait le sol et puis donc, ça crée de la nouvelle verdure et d'autres pétales se joignent vous voyez, un peu à l'envers. Voler. Donc, c'est très, très poétique, onirique et relaxant. C'est vraiment... Donc, c'est à 100 000 lieues de mettons, Fallout, où on décapite des zombies.
Et oui, et même de Call of Duty, où on est en pleine guerre. Voilà. Mais quand même, si ça relaxe et ça détend, pourquoi ça pourrait pas être appelé un jeu?
Pourquoi s'en priver? Ben, il y a quand même un aspect jeu, parce que, bon, faut quand même développer son...
sa dextérité avec la manette?
Non, pas du tout. Il y a un bouton pour avancer, puis après ça, on se prend. Non, mais c'est juste qu'il faut comme... donc, développer un peu, là, rendre ça encore plus vert, si on veut, là, plus verdoyant. Donc, mais on s'entend que c'est aucun stress, ça, c'est vraiment relaxant. Alors, c'est pour ça que est-ce que c'est un jeu? Je pense que oui, mais c'est surtout une belle expérience.
Ah, ben, Flower sur le PlayStation Network, pour ceux qui l'ont, ça vaut sûrement la peine d'aller voir ça.
Oui, c'est juste pour terminer là-dessus, ça a été développé par That Game Company, ça s'appelle, et c'est une gang assez... c'est des jeunes développeurs, un jeune studio, c'est leur troisième jeu. Ils avaient développé Cloud, un jeu onirique dont le but est de regrouper des nuages ensemble. Vous voyez un peu le principe. Et le deuxième, c'était Flow. Donc, un autre titre sur le PlayStation Network, on peut télécharger, et dans lequel on incarne une amibe. plutôt gloutonne. Alors, vous voyez un peu, encore là, on essaie d'avaler. C'est toujours des jeux un peu comme ça, relaxant. Mais moi, je trouve ça fascinant qu'on puisse faire ça.
Ben, en fin de compte, ça vient changer, comme tu dis, ça vient changer les idées de place aux oui. jeux qui sont toujours très populaires. Les jeux de tir, par exemple, oui. extrêmement populaires, où voilà. on entend juste des tirs, justement, on voit la guerre, quoi que ce soit. C'est même les jeux comme Mario, je veux dire, ça vient changer les choses. Il y en a un autre, là, Shadow, j'ai oublié le nom. C'est à peu près la même chose. Là. Il se passe vraiment rien. C'est plein d'images qui bougent, puis tu prends des photos ou tu arrêtes le temps dans le jeu.
Ouais, entre autres, les Japonais sont très forts là-dessus. Il y a beaucoup de jeux comme ça. Là, Katamari, je pense, où tu il y a un jeu là, qu'on a une grosse boule, là, puis on avance, puis on englobe, boum, d'autres, puis là, la boule grossit. C'est juste ça le jeu. Alors, il y a beaucoup de jeux comme ça. Les Japonais sont forts là-dessus.
Ils sont très forts là-dessus puis, sur la création, puis sont très forts aussi dans la consommation de ces jeux-là. Vraiment, ils trippent beaucoup là-dessus.
Voilà, mais ce qui est important, c'est de créer des nouveaux paradigmes, là, des nouveaux concepts, là, pas juste toujours. La même X pour sauter. C'est rendu que tu prends des jeux, là, pis c'est la même, c'est des copies conformes tout le temps. Entre autres, les first-person shooters, là, les jeux de tir à première personne. Il y a plein de jeux, les jeux de stratégie en temps réel. C'est des recettes. Remarque, ouais. c'est bon pareil, là, c'est intéressant. Mais c'est bien, des fois, je pense, de varier.
Ben, c'est très intéressant. Enfin, contre Flower sur le PlayStation.
Flower à surveiller. Et maintenant, je passe à mon autre. C'est un jeu de plateau qui s'appelle Dixie. Peut-être que Fräulein Ivo va pouvoir nous en parler aussi.
Je crois qu'elle va en parler, justement, elle devait parler de ça, oui.
J'ai hâte de savoir quand il va arriver au Québec, parce que ma connaissance n'est pas disponible encore au Québec.
Il va sûrement être là pour nous le dire dans quelques instants.
Dans quelques instants, oui, j'ai hâte de voir, parce que moi, c'est clair que je la jette. C'est un jeu qui a été développé par c'est le premier jeu d'un studio qui encore là, qui débute. C'est l'éditeur s'appelle Libellude, comme ludique, hein, Libellule, oui. ludique, Libellude. Et l'auteur, c'est Jean-Louis Roubira, qui est un pédopsychiatre. Donc, c'est quelqu'un, et il s'en sert, ce qui est fascinant, c'est qu'il a développé ce jeu-là, il s'en sert pour faire des traitements. Ils font des études avec des enfants qui ont des problèmes, ça peut être des adolescents aussi qui ont des problèmes de maladie mentale, ou en tout cas, à différents niveaux, des problèmes sociaux. Alors, et ça marche. Ils ont déjà prouvé que avec ce jeu-là, les jeunes améliorent leur interaction avec les autres. Comment, tu vas me demander?
Ben oui, dis-nous donc ça.
Eh bien, c'est simple, c'est que c'est un jeu qui parle de l'interprétation des rêves, si on veut. Donc, c'est tout simple. Vous avez la boîte sert de marqueur de points de victoire, et vous avez ensuite vous recevez une main de quelques cartes qui sont très belles. Là. Les images sont toujours un peu surréalistes. Hein. C'est des rêves. Hein. Donc vous avez par exemple un personnage sur la boîte couverture. Là. Vous avez un personnage qui est sur un livre, et le livre est sur une espèce de mer brune. Est-ce que c'est du chocolat? En tout cas, vous voyez un peu le ciel. Il y a plein d'autres trucs comme ça, toujours un peu bizarroïdes. Et donc vous en choisissez une, il y en a un joueur qui est le compteur, alors il prend une de ses cartes, et là, il doit inventer soit un vers, un proverbe, ou simplement une phrase, un début d'histoire. Et là, chaque joueur, les autres joueurs choisissent une de leurs cartes dans leurs mains, qui peut avoir un lien avec ce petit bout de phrase-là, ou ce petit bout d'histoire-là, et on les met ensemble, on les retourne, et là, il y a un système de vote, tous les gens doivent voter selon la connaissance des autres, pour essayer de deviner le compteur, c'est lequel sa carte. C'est difficile à raconter, mais finalement, plus vous connaissez votre monde, plus vous allez pouvoir deviner qu'est-ce qu'il y a.
Et si on devine, on fait des points?
Oui, c'est ça. En gros, on fait des points, plus ceux qui étaient dans la gang qui ont voté là, pour la bonne carte. Ah, en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut le jouer pour le voir. Et on recommande aussi de changer les groupes, hein, parce que quand vous connaissez trop votre monde, à un moment donné, ça devient prévisible. Là. Donc, c'est pas vraiment un jeu de stratégie, c'est un jeu d'interrelation. Vous allez être bon si vous rentrez dans la tête des gens, c'est fascinant.
Oh mon Dieu, mais moi j'ai un talent pour ça, je suis capable de lire les pensées.
mais imaginez avec la famille, apparemment les jeunes de 8 ans et plus, ça c'est parfait. Donc un jeu familial ultime où on apprend à se connaître.
Excellent, puis on va sûrement avoir des petites nouvelles là-dessus dans quelques instants, à savoir quand il sera disponible au Québec.
Oui.
Et on va la retrouver, Fräulein Evil, dans quelques instants. Nous allons passer en musique juste avant ça. Vous êtes sur les ondes de Sequoia.
Never find a shelter, a mountain too high. Save your soul, you gotta fight. You and the dragon with your weapon. Save your soul, or the dawn's gonna shine. Step by step,
Nous revenons sur les ondes de CKIS et puissance maximale et nous allons sur la ligne téléphonique rencontrer Fraulein Ivo.
Bonjour!
Hey, bonjour! Alors, Chantal, aujourd'hui, plusieurs sujets à traiter. Je pense que tu vas commencer avec l'As d'or.
Oui, petit survol.
On en a parlé quelque peu avec Christian il y a quelques instants, mais il y a beaucoup de choses qu'on veut savoir sur ça.
Ah, d'accord. Ben, écoutez, le festival de l'As d'or de Cannes. En fait, c'est le festival de jeux de Cannes. Il se tient au mois de février à Cannes, à tous les ans. C'est absolument fantastique d'aller jouer sur le bord de l'eau. Et ils ont un concours de jeux. Donc, ils vont éliminer ou en fait, ils vont choisir 10 finalistes en cours d'année qu'ils vont tester pour finalement couronner l'As d'or, le jeu de l'année. Et cette année, on avait déjà parlé dans une chronique plutôt au mois de janvier, des 10 finalistes, et le gagnant est Dixit, un jeu qui porte sur l'imagination, qui est absolument superbe. On en avait parlé assez longuement la dernière fois. C'est un jeu qui a été édité par un nouveau venu dans le monde du jeu, les éditions Libellude. Donc, Dixit est un de leurs premiers jeux, et on les félicite grandement. C'est un gagnant qui a surpris tout le monde, sauf ceux qui y avaient joué, qui sont tous tombés en amour avec ce jeu.
C'est drôle, Chantal Frolin. Ben, je viens de justement de faire une chronique, une présentation de Dixit, et j'ai justement oublié de mentionner qu'il avait gagné le jeu de l'année, l'As d'or. Donc, c'est très bien que tu en parles.
Oui, c'est un travail d'équipe, puissance maximale.
Dis-moi, Chantal, est-ce que c'est un jeu qu'on va retrouver sur nos tablettes au Québec bientôt?
C'est un jeu qui se retrouve déjà en tablette un peu partout au Québec.
Ah, alors, Christian est en train de faire...
Les losanges!
Eh oui, salut, le bon
Dieu. Oui, ma carte de crédit!
Non, c'est un jeu qu'on retrouve déjà dans la région de Québec, qu'on va retrouver à Rouyn-Noranda sous peu,
Christian va sûrement aller chercher à Rouyn-Noranda, justement. Je pense qu'il va là en fin de semaine.
Je suis dans mon champ.
Donc, c'est un jeu qui va être disséminé. Moi, j'ai l'impression que ça va être aussi pire que du pollen de pissenlit. Il est vraiment superbe. Comme prix spécial du jury, évidemment, on retrouve notre éternel gagnant de tous les prix, Agricola, de History Games, en version française. Un jeu de Uwe Rosenberg qui, depuis sa sortie en 2007, arrache tout, gagne tous les prix du jury, les prix du public. Il est absolument inarrêtable. Et le prix pour les enfants, on retrouve Château Roquefort, un jeu de mémoire et de parcours qui est absolument superbe. C'est des souris qui doivent retrouver les fromages en essayant d'éviter les obstacles. Et la boîte se transforme en plateau de jeu de toute beauté.
Excellent. Est-ce que tu peux nous parler de certaines nouveautés qui vont arriver bientôt sur les tablettes du Québec?
Ben, des nouveautés, on en a plusieurs qui sont arrivées. Donc, on avait parlé plus tôt dans le mois de Talisman en version française, enfin la 4e édition, qui est arrivé sur les tablettes, sur les étals, et qui vient avec deux cartes promotion qui sont en fait offertes par l'éditeur en goodies. Donc ça, c'est toujours le fun. Et puis qui sont seulement disponibles avec la première édition le premier tirage de la 4e édition de Talisman. Donc ça, c'est vraiment super cute. Ensuite, pour l'Horreur à Arkham, le fameux jeu édité par Ubique Edge en version française, un jeu coopératif dans lequel nous luttons contre la folie et contre Cthulhu, le roi en jaune arrivera sur les étals d'ici environ 3 semaines. Et pour aller dans le très, très cute, il faut parler de Pingouin Deluxe. Donc, une réédition du fameux jeu Pingouin et That's My Fish, qui est vraiment très, très cute, mais Ubique a mis toute la gomme et a fait des figurines en 3 dimensions de pingouins qui vont faire craquer même le plus grognon des joueurs.
Et on connaît Chantal Campagna, toujours un faible pour les jeux avec des animaux dedans.
Ah, mais oui, c'est parce que ça donne très, très faim. Ensuite, dans le monde du jeu plus local, les nouveautés qui sont très, très attendues, ce sera à la mi-mars ou pour le printemps. Donc, nos deux nouveaux jeux de l'éditeur Le Scorpion Masqué, qui nous avait déjà offert Je te gage et le jeu Grimpe, le jeu Où étiez-vous, qui ont absolument brisé tous les records de vente imaginables au Québec et qui d'ailleurs est un succès international avec son édition de Je te gage en France et en Allemagne cette année. Donc, pour le printemps, il nous offre Je te gage 2, donc 150 nouveaux défis complètement disjonctés à relever et aussi un nouveau jeu de vitesse, Miss Poutine.
Miss Poutine.
Miss Poutine, qui est un effort commun de Christian Lemay et de Olivier Lamontagne, qui avait l'an passé gagné le plateau d'or à la fin de semaine musique de Québec, non pas pour Miss Poutine, mais pour Poison. Mais donc, deuxième jeu édité pour Monsieur Lamontagne.
Et d'ailleurs, au sujet de M. Lamontagne, là, il y a une entrevue sur puissancemaximale.com au sujet de son jeu, justement, de Poutine.
Ah, fantastique!
Puissancemaximale.com.
Oui, génial! Et ensuite, pour terminer, il faut rappeler la nouvelle édition des Jeux au bout qui se tiendront à Chersey les 3, 4 et 5 avril prochains. Donc, c'est à Chersey, au camp de vacances Bout en train. Alors, tous les joueurs sont invités à aller s'inscrire ou aller y faire un tour. Il va y avoir des folies, des niaiseries, des activités organisées et bien évidemment du jeu libre. Donc, les 3, 4, 5 avril à Chersey et le site internet www.jeuxaubout.com, jeu avec un X.
Est-ce que toute la famille est invitée?
C'est du 14 ans et plus, évidemment. Ce n'est pas une garderie, mais il n'y aura pas de garderie d'organiser. Mais oui, les enfants sont bienvenus dans la mesure où les parents...
Ça va les tenir.
D'accord. Bien, merci beaucoup, Chantal, pour cette chronique.
Ça me fait plaisir.
On va se reparler dans quelques semaines.
D'accord.
Alors, nous allons passer, comme c'est bientôt la fin de l'émission, nous allons passer immédiatement à l'agenda avec François.
Alors évidemment, tu te trouves dans ton sous-sol, tu ne sais pas quoi faire, tu te tournes les pouces et tu te dis « ça serait le fun d'aller jouer ». Eh bien, c'est très simple. Par exemple, tous les mardis depuis des semaines, vous pouvez aller au Café Aga tous les mardis à partir de 19h et vous pouvez jouer à des jeux de go avec l'Association des clubs de go de Québec, une bande de jeunes fous déchaînés. Sinon, jeudi et vendredi, il y a des jeux de Magic à la librairie Donjon. Sinon, il y a aussi les mercredis et samedis des parties de Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40 000. Et le dimanche, c'est des parties de Yu-Gi-Oh! Sinon, encore mardi, hein, ça vous tente pas d'aller jouer à des jeux japonais, ben allez à la Ninkasi, sur la rue Saint-Jean. Vous allez pouvoir jouer à des tournois de hockey sur Wii. Et sinon, il y a le 12 février au 1er mars, dans le hall du complexe Méduse. Ça, c'est dans le même endroit où on se trouve actuellement pour faire l'émission. Il y a Level Head dans le cadre du mois multi. C'est une sorte de jeu vidéo. En fait, c'est pas un jeu vidéo, c'est un mix entre un jeu vidéo et une œuvre d'art. Et ça utilise le principe de réalité augmentée. Vous allez voir ça, c'est gratuit. Puis vous entrez dans l'entrée du mois multi. Ça va être magique. Sinon, justement, on va aller y jouer, on va aller essayer ça. Puis après ça, on va aller à la Brame Martin pour jouer à des jeux de plateau. Jusqu'à 11h, c'est gratuit. Venez nous accompagner, on va avoir du fun.
Venez nous voir, c'est à compter de 18h, juste dans quelques instants. Et l'Abraham Martin se situe dans le complexe Méduse, dans l'escalier. En fin de compte, vous devez le prendre maintenant par la rue Saint-Vallier parce qu'on est en hiver, mais c'est entre Saint-Vallier, bien sûr, et en haut, c'est la côte d'Abraham. Donc, si vous voulez réécouter cette émission-là, l'émission que vous êtes en train d'écouter présentement, vous pouvez aller sur le site de Puissance Maximale, le www.puissancemaximale.com, également disponible sur le petitpeuple.fr. Tout simplement, le temps de vous dire que l'émission qui suit, c'est Homologue, et je remercie tous les participants à cette émission aujourd'hui. Merci à Christian Lacroix et à François Gécouillard. Merci
à
ça. Ça me fait plaisir. Merci à Caroline Evil, Chantal Campagna.
Et nous avons aussi Nathalie Marie Gauthier, compagnon de la Nouvelle-France,
qui était avec nous. Et Guillaume Forin, qui en était à son première expérience à la console, et ça a été numéro un. Alors, merci Guillaume d'avoir participé à l'émission, et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine.
À la prochaine!
I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D! Fighting with the legends of yore. It's D&D!
Never kissed a lady before.
Nope. Mm-hmm. Woo!